et bienvenue à suivre Tribune de Presse sur Radio Okapi. Freddy Bikumbi, Ignace et au micro. Au cœur de ces débats, la République démocratique du Congo et le groupe rebelle M23 ont signé samedi 19 juillet à Doha au Qatar une déclaration des principes visant à mettre fin au combat dans l'est du pays. Parmi les points saillants de ces compromis figure un cessez-le-feu immédiat, libération des prisonniers en lien avec la rébellion, l'instauration de l'autorité de l'État ainsi que l'ouverture des négociations formelles en vue de la signature d'un accord de paix global en août à Doha. Avant de clôturer ces magazines, les journalistes donneront leur point de vue par rapport aux attaques menées par la milice Codeco contre les groupes armés Zaïre alliés à la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga dans les localités de Nizi et Lopa au nord de la ville de Bunia. Comment analyse-t-on la situation en Ituri et cette nouvelle donne politique entre le M23 et le gouvernement congolais? Ils sont invités à ces débats. Olivier Makese Mulongo, bonsoir.
Bonsoir, Freddy Bikumbi.
Vous êtes journaliste, chef desk à la radio nationale RTNC 2, ici à Kinshasa.
Exactement, monsieur Freddy.
Serge Mafuta, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Vous êtes journaliste et directeur général de la radio rurale de Gemena, c'est au sud Ubangi.
Oui, c'est ça, très important.
Guy Yuma, bonsoir.
Bonsoir, Freddy.
Vous êtes journaliste à la chaîne Bosolo, ici à Kinshasa.
Vous l'avez dit.
Fidèles auditeurs, bienvenue à cette tribune de presse.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Merci à vous, chers auditeurs, qui nous suivez à Mungombe et Bizi 1 à Mwenga, au sud Kivu. C'est parti avec la tribune des presses. Découvrons d'abord l'information ou l'actualité que commente chaque journaliste à son choix. Je commence avec vous, Serge Mafuta.
Chers confrères, dans la province du Sud-Ubangi, je voudrais commenter un peu l'actualité liée à une activité que mène une ONGD appelée Bureau communautaire pour l'environnement et le développement durable, le BCAD, dans la province du Sud-Ubangi, en partenariat avec les Américains de RRU. C'est une activité qui concerne la foresterie communautaire, c'est-à-dire cette ONGD est en train de tout faire pour protéger la forêt appartenant aux peuples autochtones pygmées dans le territoire de développement de l'Ouest. Et la province du Sud-Ubangi a été souvent dans un conflit forestier, et nous pensons qu'avec ce projet, ça va aider un peu à atténuer les conflits forestiers dans la province du Sud-Ubangi. Parce que jadis, on a connu un camp de conflits entre le groupement Banga et le groupement Limitebe dans le territoire de Guinée et Congo. Actuellement aussi, cette ONGD est en train de tout faire à travers l'Union européenne pour finaliser ces conflits d'une manière définitive, c'est-à-dire la pacification de ces conflits à travers le BCAD que gère M. Zobiza Gilbert dans la province du Sud-Ubangi. Nous tenons vraiment à dire que c'est une actualité qui intéresse la population et pense que toutes ces activités puissent se passer d'une bonne manière pour aider à mettre fin aux conflits fonciers qui se passent ici dans la province du Sud-Ubangi. Voilà l'actualité que je voudrais commenter un peu au niveau de la province, cher confrère.
Je n'ai pas bien capté le nom de l'autre communauté. Vous avez dit Mbanda et l'autre là. Oui, c'est Mbanda et Lingbe quoi?
Lingotede. Dans la province du Sud-Ubangi.
Tout ça, c'est le Congo, hein. C'est une grande richesse.
Oui.
Merci bien. Nous sommes vraiment trop riches. Ça, c'est en Équateur. Et nous prenons aussi l'information qui vous a attiré, peut-être, si vous en avez,
Guillaume. Je maintiens de faire commentaire sur une actualité XY. Je n'ai rien à dire.
Merci bien. Notre doyen, Olivier Makese Mulongo, quelle est l'information que vous voulez commenter de votre choix cette semaine?
Bon, écoutez, si je peux commenter dans ce sens-là, je dis les difficultés de transport, les conditions de déplacement de la population dans la province de la Mongala, par exemple. C'est une province que je fréquente le plus souvent.
Mongala, c'est en Équateur.
La Mongala, bon, c'est C'est la province des membres, notamment des membres là. Parce que Mongala, le grand équateur est scindé en quatre parties. Il y a Nord Ubangi, Sud Ubangi, Mongala et l'équateur proprement dit.
Le Congo est grand.
Voilà. Maintenant, la Mongala, c'est une province que je fréquente souvent. Je fais Kisangani, je descends à Bangoka, nous prenons des véhicules. Nous traversons le pont Chopo, on dépasse Bengamisa, on arrive à Banalia, on traverse la Ruimi.
Les transports font problème.
De Kisangani à Banalia, c'est 128 km, la route est acceptable, c'est la route à terre battue. Là, on les fait et sans problème quand même. Parce que il y a la limonite, on roule sans problème. Et on arrive à Rui, mais on traverse par Bac, le fils de route. On fait coller, Bouta, Aketi, Bunduki, Bumba. Donc vous avez Mindonga, là où il y a le palmier huile, tout et tout. Et vous arrivez à Bumba. Mais dès que vous atteignez, vous commencez la province de Mongala, c'est un parcours de combattant.
Un casse-tête.
Un véritable casse-tête. Il n'y a pas de route. Il n'y a que de véritables... De crise. Il y a beaucoup de sable. Il y a des problèmes. La route est complètement délabrée. Alors, et ajoutez à cela la difficulté de vie de la population. Mm-hmm. Comment la population vit. Et je me dis, ici à Kinshasa, les autorités sont assises bien dans des bureaux. Mais à l'intérieur du pays, il y a des difficultés. Il y a véritablement des difficultés et il est important que la République démocratique, nos autorités s'occupent réellement de la population de l'arrière-pays.
Merci bien pour ces informations partagées. Alors, la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont signé samedi dernier à Doha une déclaration de principe visant à mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC. Parmi les points forts de cette déclaration de principe, il y a le cessez-le-feu immédiat, libération des prisonniers en lien avec la rébellion, l'instauration de l'autorité de l'État ainsi que l'ouverture de négociations formelles en vue de la signature d'un accord de paix global avec une date précise, le 18 août prochain à Doha. On y mentionne également le respect aux lois de la République. D'abord, suivez ces récits de cette déclaration de principe avec Jean Ngandou.
Il faut dire que c'est un engagement fort en faveur d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de la RDC. Dans les préambules de cette déclaration des principes, les deux parties, à savoir le gouvernement congolais et le M23 AFC, réaffirment leur attachement à la paix, à la constitution de la RDC et aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Parmi les engagements majeurs figure l'instauration d'un cessez-le-feu permanent. Ce cessez-le-feu interdit toute attaque armée, toute propagande haineuse et toute tentative de modification des lignes de front. Un mécanisme mais conjoint des vérifications sera mise en place pour en assurer le respect. Et sur le plan humanitaire, la déclaration prévoit notamment la libération encadrée des prisonniers d'intérêt en collaboration avec le CICR, le retour volontaire et sécurisé des déplacés et réfugiés avec l'appui du ICR et des pays d'accueil. Autre pilier fondamental, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Un processus qui fera l'objet d'un accord de paix global actuellement en préparation avec un calendrier de mise en œuvre en cours de finalisation. Les deux parties s'engagent également à protéger les civils, à faciliter l'application du cessez-le-feu et à rejeter tout discours de haine, xénophobe ou stigmatisant. La MONUSCO et d'autres mécanismes régionaux pourraient appuyer ce processus si besoin. Et le calendrier est serré. D'ici le 29 juillet, le début de la mise en œuvre des engagements, le 8 août, l'ouverture officielle des négociations entre les deux camps et le 17 août, la signature attendue d'un accord de paix.
Merci à vous, Jean Ngandou. Alors, je vous pose une question. Comment vous avez accueilli cette déclaration de principe en tant que Congolais? Comment est-ce que vous l'analysez? Serge Mafuta.
Merci, cher Kofa, pour cette opportunité. Je pense que ce qui se passe à Doha, et le gouvernement congolais et le M23 ne sont jusque-là sincères l'un avec l'autre. Nous, on tenait à saluer cette rencontre de Doha en pensant que ça va aboutir à des bons résultats. Mais il y a violation de part et d'autre. Chers confrères, on ne peut pas s'asseoir sur une table de négociation pendant que le conflit est en cours et se poursuit. C'est inacceptable que nous soyons, le gouvernement congolais, que nous soutenons d'ailleurs pour que la paix puisse revenir en l'est du pays, puisse aller à Doha sous prétexte de chercher à trouver une solution par rapport à ce qui se passe en l'est. Mais de l'autre côté, les Wazalendo et les M23 sont en train de se battre, violant même les documents récents, les pactes qui viennent de signer. Et nous pensons que ça, ce n'est pas une bonne manière de faire.
Mais Serge, les Wazalendo n'ont pas signé cette déclaration.
Tout à fait. Mais mais les Wazalendo soutiennent le gouvernement congolais. Les Wazalendo agissent pour protéger l'intégrité du territoire national. Donc ils sont là pour défendre le territoire qu'ils occupent. Et je pense qu'ils agissent souvent aux côtés des FANDC. Pourquoi les Wazalendo doivent souvent être attaqués? Et là, ça me pousse encore à aller un peu loin, parce que j'ai suivi l'honorable Élie Michik dire qu'on devrait aussi inviter les Wazalendo. Non, on ne peut pas inviter les Wazalendo. Les Wazalendo soutiennent le gouvernement. Le gouvernement a envoyé ses délégués. On sous-entend que tout ce qui est en train de se passer à l'est du pays, ça concerne également les Wazalendo. Est-ce qu'on se pose la question? Parce que nous, autrefois, on avait soutenu le cardinal Ambongo, qui disait qu'un jour, les Wazalendo vont aussi constituer un problème de sécurité dans ce pays. On en doutait. Mais aujourd'hui, les Wazalendo réclament qu'ils puissent aussi participer à ce dialogue. Moi, je ne pense pas. Parce qu'ils disent qu'ils sont des volontaires. Quand on est volontaire, on ne peut pas aussi, parce que tout ce qu'ils vont sont en train de faire là, s'il s'agit qu'on aboutissait à un accord, un jour les Wazalendo aussi vont réclamer qu'on leur donne un ministère. Et là, on va dire que ce n'est pas un acte volontaire. Alors, je vais revenir sur cet aspect-là. Mais je parle de l'accord qui venait de signer. On dit, c'est le fait immédiat. Il n'y en a pas, parce que dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, il y a toujours des attaques qui se passent entre les mouvements du 23 mars à l'échelle. Les Wazalendo, on ne sait pas si ça se passe avec qui ce sont les Wazalendo. Alors moi, je reviens à dire que c'était important, c'était vraiment important qu'on ne puisse pas forcer une négociation. Parce qu'on a tendance que le gouvernement perd les États-Unis pour négocier avec les M23. On a aussi peur que les M23 ont perdu les États-Unis pour négocier avec le gouvernement. Pourquoi on a entendu pendant toute cette période? Pourquoi on a entendu qu'on a accumule des milliers de morts pour accepter enfin d'entrer en négociation avec les rebelles du M23. D'ailleurs, nous avions compris que cette ceinture n'est pas va être violée. Tantôt des déclarations. Quand ils sont sortis, le porte-parole du gouvernement a fait une déclaration, et juste après cette déclaration, c'est le représentant du M23 l'a contredit. Moi, je pense que c'est quand même une histoire qui concerne des vies humaines. On ne peut pas caricaturer sur la vie humaine, chers confrères. Nous qui avions déjà vécu le cas de rébellion, en tout cas, ça nous gêne quand nous suivons tout ce qui se passe à l'est du pays. Donc moi, je pense que, en tout cas, la solution est loin d'être trouvée si on ne revenait pas à l'intérieur pour discuter de ce peuple. Parce que, au niveau des États-Unis, les États-Unis disent que non, le reste des compromis vont être trouvés au niveau de Doha. À Doha, déjà, ça capote. Pourquoi ne pas rentrer à l'intérieur? Je crains que Doha aussi puisse dire que non, quand vous finissez ici, vous allez rentrer aussi négocier là-bas chez vous. Pourquoi ne pas tout mélanger et discuter une seule fois? Parce que c'est comme si un malade qu'on l'a amené à l'hôpital, en arrivant, le médecin dit non, vous avez un problème de kyste, vous avez un problème d'appendicite, vous avez également d'appendicite, vous avez le problème de myome, et il fait l'intervention chirurgicale en terminant le cas dernier, et laisser appendicite ainsi que les autres problèmes là. Nous pensons que centraliser et discuter pour une solution définitive.
Merci.
C'est quand même normal qu'on puisse aller dire que non, bon, voilà, on a trouvé des compromis. Mais pendant qu'on est en train de discuter, on est en train de se battre à l'intérieur du pays.
À vous, Olivier Makiese Mulongo, comment est-ce que vous avez accueilli cette déclaration de principe?
Bon, écoutez, moi je me dis que des avancées ont été quand même réalisées sur le terrain de négociation, hein, parce que les deux parties viennent de très loin. Il y a eu le processus de Nairobi, il y a eu le processus de Luanda, et partout ça trébuchait, ça marchait pas. Et voilà que.
Mais ça a raté le 15 décembre 2024.
Mais tout à fait, tout à fait. Mais voilà que maintenant, ce sont avec la pression des États-Unis, les États-Unis ont contraint le M23FC et Kinshasa de s'asseoir sur une même table et de commencer à trouver des compromis concrets. Et voilà que maintenant, l'accord de principe, la déclaration de principe a été obtenue et pour ouvrant la voie à des négociations directes pour mettre fin aux hostilités, n'est-ce pas?
Mais Serge, lui, trouve après des morts à Goma, à Bukavu, à Calais.
Bon, c'est-à-dire des morts, les morts, ça ne peut pas manquer, hein, lorsqu'il y a des pourparlers sur terrain, petites escarmouches ne peuvent pas manquer. Mais ce qui est important, c'est d'abord ce qui se négocie sur place à Doha. Et la déclaration des accords des principes, là, c'est déjà quelque chose de très important. Et parce que ça va ouvrir la voie à des véritables accords pour la cessation des hostilités sur terrain. Vous voyez? Mais un seul couac que j'ai noté, le M23, jusque-là, persiste et ne veut pas libérer. Même après les accords.
Mais pourquoi vous voulez que l'M23 quitte? Ils sont congolais, ils doivent rester au Congo. Subir la rigueur du gouvernement.
Subir comment, d'autant plus que l'M23.
Ils sont congolais.
Ils sont congolais, mais n'a pas été invité par le gouvernement central. N'a pas été invité par le gouvernement central. Le gouvernement central doit reprendre son autorité là où l'M23. Est en train d'exercer sa manière de faire les choses. Parce qu'il n'a pas été invité par le gouvernement central.
Et les Congolais qui doivent être là, il y a aussi les gens du M23.
Naturellement, il est question.
Pourquoi vous voulez qu'ils quittent le pays? Ils doivent rester cette fois-ci pour ne pas dire demain ou après-demain qu'ils étaient des apatrides. Qu'ils restent au pays.
Bon, ça dépendra des accords, hein. On verra bien. À l'issue des accords dans sa globalité, certainement qu'il y aura de mélange de troupes, il y aura certainement des mélanges des administratifs, il y aura des mélanges dans beaucoup de secteurs. Et au finish, il faut qu'il y ait une seule autorité de l'État congolais, hein, dont la capitale est Kinshasa.
Je passe à vous, Guillaume, comment est-ce que vous avez accueilli cette déclaration de principe?
Cher Freddy, je pense que j'ai accueilli avec joie, énormément, avec joie, la signature de la déclaration de principe entre le mouvement AFC M23 et le gouvernement central, cette déclaration qui a été signée à Doha. À mon humble avis, cette déclaration est un pas important entre les deux parties engagées dans les discussions.
Comment ça?
Et parce que vous savez que, comme venait de le dire le confrère
Olivier
Makessé, nous avons assisté à une série de discussions qui n'ont pas, n'est-ce pas, donné l'espoir de voir Kinshasa et le mouvement AFC M23 se mettre autour d'une table pour qu'à la fin, ils arrivent à, n'est-ce pas, à signer un accord inclusif plutôt, ou un accord de paix. Mais avec les efforts des États-Unis et du Qatar, aujourd'hui, les deux parties se sont mises autour d'une table pour discuter. Mais maintenant, ce qui dérange, quand bien même que je venais de le dire, que cela semblait un pas important dans les discussions engagées, mais il s'observe seulement une faiblesse au niveau de l'observation sur terrain. Parce que dans la déclaration de principe, vous l'avez dit, il a été question de l'observation d'un cessez d'un cessez-le-feu permanent. Mais malheureusement, juste après la signature, il s'observe que les hostilités continuent. Parce que juste un jour après la signature, vous savez ce qui s'est passé à Fizi. Donc, je pense aussi à Pinga, si j'ai bonne mémoire et que je n'arrive pas à massacrer les noms.
Pinga, c'est Walikale.
Exactement. Donc, il y a eu des hostilités qui ont fait des morts, mais cela met en paix, fragilise au moins en quelque sorte cette déclaration de principe signée entre Kinshasa et l'AFC M23.
Alors, je vous donne la parole pour question de fond de cette déclaration de principe et soyez direct à un peu de mots pour qu'on puisse avancer. Et donc, tour à tour, on va rester avec vous, Guillaume. Selon vous, qui doit libérer les détenus d'intérêt politique dans ces conflits M23 et gouvernement?
S'il faut répondre directement, je dirais les deux parties. Les deux parties engagées sont appelées parce que c'est ça le sens même d'une négociation.
Mais quand on pense que c'est à Kinshasa où il y a des détenus.
Et il y en a aussi, parce que il y en a aussi du côté AFC M23. Parce que quand le mouvement AFC M23 a occupé Goma, Bukavu, il y a certaines autorités locales qui ont été arrêtées. Je pense que les concessions devraient se faire entre les deux parties. Kinshasa est censé libérer, d'après la demande de l'AFC M23, et l'AFC M23 est censé aussi obtempérer à la demande de Kinshasa. Donc ça doit se faire entre les deux parties, pour ne pas seulement dire que c'est Kinshasa qui doit observer la demande de l'AFC M23. Non, nous sommes dans les négociations, les deux parties ont des exigences et des exigences à présenter, et qu'entre les deux ils sont, n'est-ce pas, elles sont plutôt, il s'agit là de parties, elles sont plutôt appelées à obtempérer, question de pouvoir se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent obtenir au finish.
Serge Mafuta, selon vous, qui doit libérer les détenus politiques?
Cher confrère, moi je pense que la déclaration de principe qui venait d'être signée, nous on estimait que ça puisse apporter la peine. Mais je me demande, si aujourd'hui le M23 arrivait à libérer les prisonniers qui se trouvent du côté du gouvernement, ils vont les extrader vers Kinshasa? Et si Kinshasa aussi arrivait à faire comme ça, ceux qui seront libérés là vont entrer à Goma. Pas plus tard qu'hier, j'ai suivi qu'on a fixé le dossier Kabila devant la haute cour militaire. Alors qu'on accuserait Kabila de soutenir les M23. De notre départ et d'autre, il y a violation de ce principe, de cette déclaration de principe.
Serge, Kabila n'est pas concerné par la déclaration des principes. Kabila n'est pas concerné par la déclaration des principes et Kabila n'est pas prisonnier.
Cher confrère, parce que parmi les accusations qu'on accuse, c'est de soutenir le M23. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, que le gouvernement puisse respecter cette déclaration de principe, c'est ça aussi être sérieux dans la vie. Les M23 aussi doivent respecter ce qu'ils ont signé dans cet accord de principe pour permettre que la paix puisse revenir au pays. Mais ce que je viens à dire à toutes les deux parties, que moi j'ai pris part à plusieurs formations de gestion de conflits. S'ils ne sont pas prêts à négocier, qui ne puisse pas tromper les gens et signer des documents et qu'à la suite ça puisse capoter, parce qu'il s'agit de la négociation sur des vies humaines. Le M23 doit quitter le territoire occupé pour permettre que la vie puisse reprendre normalement. Il y a des fonctionnaires qui sont là-bas, qui ne sont pas payés parce que les banques sont fermées, les banques ne fonctionnent pas, et c'est catastrophique pour nos compatriotes de l'Est du pays. Tout ce que nous pouvons demander au gouvernement congolais, c'est d'être souple, c'est de contraindre, de faire comprendre le M23 qu'il s'agit de l'intégrité du territoire national. Si ces M23 sont réellement congolais, qui accepte ce qu'ils ont signé et qui libère aussi pour permettre au président de contrôler, au lieu de laisser ces gens-là, qui sont en train de se distraire pour le cas de troisième mandat, se distraire pour le cas de changement de constitution, c'est ce qui les préoccupe. Or, si on n'arrivait pas à assurer la sécurité de l'intégrité du territoire national, en tout cas, ça sera difficile même qu'on puisse parler de changement de constitution, qu'on puisse parler de troisième mandat, ou encore parler des élections dans ce pays. Nous ne voulons pas que ce pays puisse être balkanisé, nous voulons que le Congo soit uni, un et indivisible.
Serge, qui doit instaurer l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle du M23? Est-ce le gouvernement congolais ou les rebelles du M23?
C'est le gouvernement congolais, c'est même ni États-Unis, ni Doha, c'est le gouvernement congolais qui doit prendre ses responsabilités. au lieu de prendre Doha et les États-Unis actuellement comme bouc émissaire, moi je pense que le problème est purement entre les Congolais et on doit tout faire pour en trouver une solution entre nous. Si on terminait à Doha, il y a des questions qu'on doit aussi vider au niveau de l'intérieur ici, avec le pacte engagé par la CENCO. Si on revenait sur ça, c'est ce qui a d'ailleurs permis que le président actuel de la République puisse être élu au premier mandat. Parce qu'il y avait l'impossibilité d'organiser les élections, ça devait capoter, on devait assister à des rébellions. Mais grâce à la CENCO, il y a eu dialogue. Pourquoi ne pas aussi revenir vers ces cinq-là et laisser ceux qui se sont coalisés avec notre confession religieuse et s'asseoir et discuter des problèmes qui concernent nous, Congolais, et que nous puissions en trouver une solution congolaise.
Je pense que Serge n'arrive pas à répondre directement à votre question. La question, elle est claire. Entre les mouvements rebelles et le gouvernement central, qui doit instaurer restaurer plutôt l'autorité
vous
de l'État, bien sûr, au gouvernement, parce que c'est c'est Kinshasa qui a le mandat.
C'est le gouvernement.
C'est le gouvernement de Kinshasa, bien sûr, et non les mouvements rebelles, parce que dans la déclaration de principe, on dit que cela doit être fait dans le respect de la souveraineté de l'État, et c'est là conformément à la Constitution congolaise.
Mais l'M23 déclare que dans leur parti ils vont instaurer l'autorité de l'État.
Non, mais ils vont le faire en fonction de quoi? Cela, c'est en violation de la Constitution. Parce que le M23 ne peut pas se permettre de dire que nous allons instaurer l'autorité de l'État. Ils le feront au nom de quoi? D'autant plus que nous savons que le seul président élu, c'est Félix Tshisekedi, et c'est lui qui engage la République démocratique du Congo.
Et Goma, Bukavu,
vous dites?
Les rebelles, ils réclament avoir l'autorité de l'État.
Au nom de quoi? Parce que cela n'est pas régi dans la Constitution.
Merci. Serge, qu'en pensez-vous?
En deux mots, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi. J'ai dit que c'est le gouvernement congolais qui doit restaurer l'autorité de l'État et non les rebelles, parce que la rébellion n'est pas autorisée par la Constitution.
Merci bien. Je me tourne vers vous, Olivier Makiese Mulongo. Il y a deux points là où les Congolais attendent comprendre, en tout cas, qui doit libérer les détenus politiques en lien avec cette rébellion et qui doit instaurer l'autorité de l'État.
Bon, absolument, tel que venait de dire mon confrère
Guillaume,
ce mécanisme doit se faire concomitamment les deux côtés. D'autant plus qu'ici, à Kinshasa, il y a également des détenus politiques qui continuent à couper dans le prison. Et de l'autre côté également, les personnalités publiques qui géraient certaines entités de l'État avant la chute de Goma, avant la chute de Bukavu, et les personnalités-là qui n'ont pas pu rejoindre les enceintes de la MONUSCO pour trouver refuge, ils sont entre les mains de M23 FC. Ils
sont aussi prisonniers de ces conflits?
Absolument. Alors, ils doivent être libérés. Voilà. Ils doivent être libérés à partir du moment où l'accord de principe a été obtenu et les négociations sont en train de se mener sur le terrain. Et au finish, il faut qu'ils soient libérés. Donc, les deux côtés, il faut que ce mécanisme puisse s'opérer.
Et qui doit instaurer l'autorité de l'État? Les rebelles réclament qu'ils ont l'autorité de l'État. Et vous êtes journaliste, qu'en pensez-vous?
Non, c'est Kinshasa qui doit reprendre son autorité, sa mainmise sur Nord Kivu, sur Sud Kivu. C'est Kinshasa qui doit reprendre sa mainmise, qui doit reprendre la gestion quotidienne du Nord et du Sud Kivu, normalement.
Pourquoi vous ne parlez pas des 120 Congolais FRDC qui sont détenus au Rwanda, qui ont vu la vie sauve à travers la frontière? Sont-ils aussi concernés?
Mais je crois bien, je pense bien. Ils doivent également...
Vous les avez oubliés, sont Congolais.
Heureusement que tu as rappelé ça.
Mais je pense que dans cette discussion, dans cette discussion de Doha, toutes ces questions-là sont prises en compte. Je ne vois pas le gouvernement congolais en négociant en réclamant plutôt l'instauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble, c'est que, et sur l'ensemble du territoire national, cela est pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, quand Kinshasa sera en train de contrôler Bukavu, Goma, qui se voit être entre les mains de l'AFC-M23, c'est-à-dire en ce moment-là, tous ceux qui ont eu à traverser, n'est-ce pas, la frontière pour se réfugier de l'autre côté du Rwanda, seront appelés. D'ailleurs, je tiens à le rappeler ici qu'il y a eu hier le Rwanda et la RDC ont signé
sur la question des réfugiés.
Bien sûr, ont signé un accord sur la question de réfugiés. Question de pouvoir prendre tout le mécanisme, mettre en place plutôt tout le mécanisme qui vont faciliter à répatrier, n'est-ce pas, ces réfugiés, donc dans leur sol, dans leur sol. Donc, je pense que toutes ces questions sont prises en compte. Le gouvernement ne peut pas, n'est-ce pas, sauter ou soit oublier certains citoyens qui sont concernés dans ces conflits.
Je peux rappeler que c'était pendant 3 jours, c'était à Nairobi, oui. Les assises qui ont en fait dans au sommet duquel le sujet était en fait les assises centrées sur le rapatriement des réfugiés, hein, les deux côtés. Et Kinshasa, le gouvernement congolais était représenté par Jacques-Aimé Chabani, VPM intérieur, et le Rwanda a été représenté par son ambassadeur accrédité sur place en Éthiopie. Addis Abeba.
Serge, qu'en pensez-vous? Les Congolais doivent oublier le 120 militaires FRDC qui sont prisonniers au Rwanda suite à ces conflits?
Cet accord de principe s'impose même au Rwanda qui est le parrain du M23 et nous pensons que le Rwanda doit automatiquement procéder à la libération des FRDC qui sont arrêtés là-bas. Même les rebelles du M23 aussi doivent relâcher les Congolais qui sont massacrés, qui sont torturés dans des prisons, dans des amigos, par plusieurs du M23. De la même façon que le M23 aussi puisse donner une liste de ces rebelles ou de ces alliés qui sont arrêtés au niveau du gouvernement. Et je pense, parce qu'il y a des prisonniers politiques également qui sont dans la prison. Je ne sais pas si cela sont concernés par cette déclaration de principe. Mais à mon sens, je pense que c'est le dialogue qui va se situer à Kinshasa entre nous les Congolais qui va discuter des problèmes liés à des prisonniers politiques. Mais pour l'Allemagne, en tout cas, les deux parties doivent pour permettre que la situation soit décrispée.
Merci bien. Et dernière question par rapport à cette déclaration de principe. Ça doit aboutir par un accord et dans cette déclaration de principe, il y a un chronogramme. Il y a des dates fixes pour chaque étape et que en arrivant en août, on doit avoir un accord de paix global. Est-ce vraiment, vous êtes aussi optimiste pour que la paix revienne en RDC s'il y aura un accord à Doha? Olivier Makese.
Je pense bien, je peux dire que l'optimisme est permis dans vie les dernières nouvelles que nous recevons sur place à Doha et à partir du moment où les États-Unis ont exercé des pressions les deux côtés et vu les avancées également sur le terrain et vu la déclaration obtenue déjà de accords de principe, je pense que l'optimisme est permis. Nous, vraiment, on est optimiste là-dessus.
Serge, qu'en dites-vous?
Je pense que jusque-là, je me réserve d'affirmer que ça va, cet accord-là va être vraiment signé et respecté par les deux parties. Parce qu'au départ, déjà, il y a des désordres et nous sommes optimistes par rapport à ce qui va se passer. Tout ce que nous souhaitons, que cet accord-là puisse aboutir. Que cela puisse aboutir et que la paix définitive puisse régner à l'est du pays. Parce que c'est pas quand même normal qu'un mouvement rebelle puisse occuper deux provinces pendant 2-3 ans. Les noms minéraux sont exploités illégalement. Il n'y a pas l'état de droit sur les rebelles et les Congolais sont appelés à accepter tout ce qu'ils vont donner comme ordre. Il y a des tortures, il y a non-respect des droits humains. Ce qui se passe à l'est du pays, c'est vraiment une façon de massacrer la population. Et nous pensons que LN23 doivent aussi être souples, parce que si c'est dit congolais, ils doivent aussi savoir que ceux qui sont en train de souffrir à l'est du pays, ce sont ses compatriotes congolais, et ils doivent tout faire pour libérer cet espace et que le gouvernement puisse prendre le contrôle pour imposer l'autorité de l'État dans ces zones.
Merci bien, Guillaume.
Contrairement au scepticisme qui s'observe dans le chef de Serge,
Serge doute.
Et il reste
parce qu'on connaît l'M23 depuis CNDP, RCD Goma,
il reste sceptique. Et puis, moi, je m'inscris en faux par rapport à son scepticisme, mais il est libre de réfléchir ou soit de penser de cette façon-là. Mais moi, je reste optimiste et j'y crois. Que le 18, un accord inclusif sera signé entre Kinshasa et l'AFC M23 parce que déjà la signature de la déclaration des principes prouve à suffisance combien ces deux parties sont engagées, combien ces deux parties expriment leur volonté de pouvoir privilégier la paix au-delà de ce qui leur divise. Donc, en toute foi, et je crois qu'il s'agit là des Congolais, si réellement les M23 se reconnaissent comme étant des Congolais, ils ne peuvent pas vouloir privilégier, n'est-ce pas, la guerre, les tueries et tout ce qui va avec, mais plutôt il est question ici de mettre au premier plan la paix, privilégier la paix plutôt, régler les différends à travers les négociations comme déjà déclenchées à Doha.
Pendant ce temps, on cherche à calmer les aventures du M23, mais en Ituri, il y a eu au moins 21 personnes tuées lors de l'offensive menée par la milice Codeco contre les groupes armés Zaïre alliés à la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Et il y a eu des attaques, des offensives contre les civils, les Congolais, dans les localités de Nizi et Lopa. Et ça s'est passé le lundi au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Il faut dire que ces attaques arrivent pendant qu'il y a un protocole de paix signé par plusieurs groupes armés de cette province de l'Ituri, qui est en état de siège aussi. Mais selon vous, que comprendre de la reprise de l'activisme de bandes armées en Ituri? Est-ce la paix? Y est possible, Olivier Makese Mulongo?
Bon, de ce côté de l'Ituri là, il y a trop de bandes armées qui pillulent depuis un certain temps. Là, je peux un tout petit peu me réserver. Je peux me réserver pas à 100%, peut-être à 50%, d'autant plus que bien avant cela, il y a eu la signature des accords de paix entre Emma et Bira aussi. Ça, c'est à Nirumu.
Emma et Bira.
Emma et Bira, qui ont signé un acte d'engagement sur le rapprochement communautaire pour la cohabitation pacifique. De groupement Makabo et Tseré, c'est à une dizaine de kilomètres de Bunia. Hein? C'est au terme des assises facilitées par la MONUSCO et le gouvernement provincial de l'Ituri. Ainsi, les notabilités de ce territoire d'Irumu et les chefs coutumiers ont décidé d'enterrer les différends qui les opposaient depuis plus d'une décennie. Ils ont signé un protocole donc de non d'agression.
Est-ce la paix possible dans cette
région? Donc, je peux dire, on peut quand même un tout petit peu espérer si les amis qui s'entretuent récemment là, tel que vous venez de citer le nom, s'ils emboîtent le pas, c'était le
Codeco et Zaïre.
Oui, voilà. Si Codeco et Zaïre peuvent emboîter le pas de Emma et Bira, ça pourra marcher. Pourquoi est-ce que ça continue à s'entretuer? Ce sont des Congolais. C'est pas croyable. La richesse ne peut pas nous séparer. Nos propres richesses, ça doit nous unir, nous mettre ensemble pour que nous puissions aller d'avant.
Merci bien. Je rappelle que vous êtes journaliste et chef desk à la radio RTNC ici à Kinshasa. Je prends aussi comme votre conclusion. Serge Mafuta, je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général de la radio rurale de Guémena. Vous intervenez à partir de Guémena. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la paix à Ituri?
En Ituri, pour que la paix puisse revenir, l'Ouganda doit être sincère avec le gouvernement congolais, parce que nous avons une opération que mène le FADC avec les militaires ougandais. Aujourd'hui, Thomas Lubanga, qui est parmi ceux qui sont en train de semer des terres dans cette province, tient un point de presse en Ouganda, il s'exprime librement, ses militaires sont là, il est logé là-bas. Pourquoi pas, au nom de coopération, prendre Thomas Lubanga et l'extrader ici dans le pays? Je tiens quand même à féliciter et à saluer cet accord qui venait d'être signé entre ce mouvement Zaïre et Codeco, comme vous venez de le dire. Et nous pensons que ce n'est pas encore fini.
Serge, il n'y a pas d'accord ni de pacte. Il n'y a pas d'accord ni de pacte entre Codeco et Zaïre. Ce sont des groupes armés rivaux en tout cas. C'est un pacte de paix communautaire entre Hema et Biri.
Hema et Biri, je voulais dire, il faut corriger ensemble avec moi, Hema et Biri. Et moi je pense avec les rebelles de Codeco, de Zaïre et consorts, nous on pense peut-être qu'aujourd'hui Thomas Lubanga est en train de chercher à se positionner à travers l'Ouganda. Parce que les M23 sont manipulés par le Rwanda, et maintenant, Thomas Lubanga, avec ses troupes, sont alimentés par l'Ouganda. Si les EMA ont pris ce courage-là de signer ce pacte de paix, pour que la paix puisse revenir en Ituri, nous estimons que réellement, si le gouvernement arrive à y travailler avec les partenaires, nous pensons que la paix peut régner à Ituri. Mais l'opération qui se passe entre le gouvernement, l'opération conjointe qui mène les FARC et les militaires ougandais, doit vraiment être surveillée à haut niveau. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une province à travers l'Ouganda où nous coopérons avec eux, où nous travaillons dans l'Assemblée et massacrer la paisible population qui se trouvant dans la province de l'Ituri. Donc, nous croyons quand même que petit à petit, l'Ituri va encore se stabiliser. Je n'enseigne pas encore maintenant. Il faut encore du temps pour permettre la sortie de cette crise et des cas de sécurité qui l'entraînent.
Merci bien Serge Mafuta, Guillaume, je dis que vous êtes journaliste à la chaîne Bosolo, ici, Bosolo Télévision ici à Kinshasa. Que pensez-vous, Serge soulève une grande problématique, le rôle que joue l'Ouganda dans l'Ituri, est-ce qu'il y aura vraiment la paix? Codeco attaque le groupe Zaïre et ce sont des Congolais qui s'entretuent.
Bon, déjà je me dis que il est possible que Ituri retrouve la paix.
Ça sera votre conclusion.
Voilà, bien sûr, il est possible que Ituri retrouve la paix si seulement toutes les communautés s'inscrivaient dans la même logique que les Ema et les Biri qui viennent, n'est-ce pas, de signer ces pactes de paix. Donc, il est question de privilégier la paix au lieu de mettre en avant-plan des différents de tensions, des fois qui s'avèrent inutiles.
Mais maintenant, s'il faut revenir
à votre question, vous savez bel et bien que le gouvernement congolais et l'Ouganda ont ensemble signé une coopération conjointe qui vise, n'est-ce pas, à neutraliser les mouvements négatifs, y compris les ADF Nalu, donc dans cette contrée. Le fait de voir la persistance, n'est-ce pas, des hostilités dans ces coins, donc ça laisse à interroger, mais ce qui est important, c'est plutôt d'appeler ou soit de pousser les communautés à privilégier la paix, à privilégier le vivre ensemble, au lieu de se mettre dans de guerres, dans des tensions et puis dans des divisions qui ne privilégient pas leur vivre ensemble.
Chers confrères, je vous dis merci de votre participation.
Merci Freddy Bikombi.
C'est tout pour cette tribune de presse. Merci à toute l'équipe du Dialogue Intercongolais. Patrick Kiasongwa était à la technique. Au micro, c'était moi, Freddy Ignace Bikombi. Je vous donne rendez-vous à vendredi.